Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Tous trois étaient nés en 1924 et appartenaient à ce que l'on a appelé la troisième génération psychanalytique française, c'est-à-dire celle des psychanalystes n'ayant connu ni Freud ni ses disciples directs. Tous trois étaient membres de l'Association psychanalytique de France, fondée en 1964 en rupture avec les orientations pratiques et théoriques de Jacques Lacan, avec lequel ils avaient tous les trois par ailleurs suivi, des années plus tôt, une analyse. En avril 1969, Jean Laplanche, Jean-Bertrand Pontalis et Guy Rosolato étaient les invités de Georges Charbonnier dans un volet de l'émission « Sciences et techniques » consacré à la psychanalyse. Où en était la discipline, cette année-là, c'est-à-dire au lendemain de mai 68, après le bouleversement qu'avaient constitué ce que l'on appelait alors les événements? Comme il le soulignait, elle se trouvait dans une situation paradoxale, un certain nombre des leaders révolutionnaires s'étant réclamés d'elle, alors même que l'on avait dans le même temps reproché aux psychanalystes leur trop grande réserve. Une situation que Laplanche et Pontalis, auteurs du classique Vocabulaire de la psychanalyse, publié pour la première fois en 1964 et depuis constamment réédité, analysaient avec lucidité, la replaçant aussi dans la longue histoire, chahutée, de la discipline en France. Première diffusion sur France Culture le 11 avril 1969.
Sciences et techniques par Georges Charbonnier. Aujourd'hui, notre émission comprend, avant la chronique de Nadine Lefébure, deux parties. La première est consacrée à l'état présent de la psychanalyse et la seconde à la linguistique, ou tout au moins à un ouvrage qui vient de paraître tout récemment. C'est donc tout d'abord vers la psychanalyse que nous nous tournons, avec le concours de Jean-Bertrand Pontalis, qui est maître de recherche au CNRS, Guy Rosolato, membre de l'Association psychanalytique de France, et Jean Laplanche, qui est également membre de l'Association psychanalytique de France.
Jean-Bertrand Pontalis, vous dirigez une collection chez Gallimard, une collection qui est consacrée, puis-je dire, à des écrits concernant la psychanalyse. Comment pourrait-on la circonscrire dans de meilleurs termes?
Vous pouvez le dire, vous devez le dire, c'est une collection proprement psychanalytique qui s'appelle « Connaissance de l'inconscient ». Elle a maintenant 2 ans, c'est donc un petit peu tôt pour la définir. Elle prendra son visage, je pense, peu à peu. Enfin, je peux quand même vous dire au moins quelle était mon idée au départ. Disons que c'est une collection freudienne, qui s'est placé d'emblée sous le signe de Freud, puisque les 2 premiers volumes sont des volumes de correspondance de Freud. De correspondance, c'était aussi intentionnel d'ouvrir la collection par des textes qui ne sont pas techniques et qui d'emblée mettent le lecteur en rapport avec ce qu'a été la découverte de la psychanalyse pour Freud. Freudienne, elle n'est pas pourtant dans mon esprit dogmatique, c'est-à-dire qu'au sein de la psychanalyse freudienne, elle est ouverte à toutes les tendances. Par exemple, ils sont parus conjointement un livre d'Anna Freud, qui représente tout un courant de pensée très important, surtout dans le monde anglo-saxon, et un livre de Melanie Klein, qui a toujours été considérée comme la grande opposante des tendances d'Anna Freud. Beaucoup de traductions, c'est un reproche qui m'a été fait, que je reprends volontiers à mon compte, parce que j'ai le sentiment qu'en France, dans la vogue, je crois qu'on peut parler de vogue actuelle de la psychanalyse, nous sommes un peu trop axés sur ce qui se fait en France, voire à Paris. Il y a là, comme dans beaucoup d'autres domaines, un certain, disons, provincialisme. Et j'ai voulu publier des textes même anciens, des livres comme ceux de Gézaroem, ou comme ceux de Schilder, qui sont toujours invoqués, mais auxquels le lecteur n'avait pas accès. l'image du corps de Schilder, ou psychanalyse et anthropologie de Guézard-Rohem. Une autre idée à laquelle je tiens est que cette collection, même si elle est strictement psychanalytique, et qu'en sont exclus toutes sortes d'ouvrages de vulgarisation ou de manuels, que cette collection doit, ce qui est un souhait de tout directeur de collection, toucher un autre public que celui qui lui est acquis d'avance, c'est-à-dire, en l'occurrence, les psychanalystes ou les psychologues intéressés par la psychanalyse. Que chacun doit trouver une voie d'accès. Et c'est en ce sens qu'il y est paru une biographie de Lou Andrea Salomé, qui est une femme qui a eu un destin, comme vous le savez, très curieux, et qui, après la rencontre de Nietzsche, puis la rencontre de Rilke, a rencontré Freud. Ce n'est pas là du tout un livre de psychanalyse. Comme Freud disait à propos de ses premiers cas, je suis un peu ennuyé, ces histoires de cas, les savants ne vont pas trouver ça sérieux, ils vont dire ça se lit comme des romans. Et bien là, c'est un peu l'inverse, c'est une vie ou un destin qui peut se lire comme une histoire de cas. Et des gens, surtout des femmes, il faut le dire, ont été sensibles à ce destin et à partir de là, je souhaite, auront senti quelque chose qui concerne, disons, l'inconscient. De même, il est paru un livre sur Hamlet qui pouvait intéresser, disons, les gens de théâtre. Ce que j'aimerais, c'est que chacun puisse entrer dans cette collection par son propre chemin et ne soit pas d'emblée rebuté par une trop grande technicité ou un jargon qui lui fait dire « ça, ça n'est pas pour moi ».
Combien d'ouvrages comprend la collection à peu près depuis qu'elle existe ?
Pour l'instant, une dizaine.
Et quelle est la périodicité ?
5 par an environ.
Est-ce qu'il est indiscret de vous interroger sur les prochains ouvrages qui doivent paraître ?
Bien, les tout derniers parus sont La correspondance de Freud et d'Abraham et un livre d'un psychanalyste allemand qui s'appelle Vers la société sans père d'Alexandre Mischerlich.
Et quant aux ouvrages à paraître ?
Le mois prochain doit paraître un livre de Georges Grodek, dont les éditions Gallimard avaient déjà publié le livre du ça. Grodek se définissait lui-même comme un psychanalyste sauvage. C'est un original qui était toujours un petit peu en marge du mouvement analytique, qu'il n'aimait pas beaucoup les institutions, mais que Freud aimait beaucoup, car il avait reconnu chez lui une sorte de passion interprétative, d'une passion du sens qui a fait de Grodek l'ancêtre un peu méconnu de la médecine psychosomatique. Il cherchait surtout le sens dans le corps, voyant dans le corps une expression de la psyché.
D'autres ouvrages encore sont déjà à votre programme ou il est trop tôt pour en parler ?
Non, on peut dire qu'alors à la rentrée, je compte publier un livre d'un Américain qui s'appelle Bruno Bettelheim sur des enfants très atteints, des enfants autistiques, complètement enfermés en eux-mêmes. Et Bettelheim est un psychologue qui a créé aux États-Unis une école pilote pour ses enfants et son livre contient de très belles observations. C'est surtout son intérêt à mes yeux.
Vous avez dit que c'est une collection à laquelle vous souhaitiez que tous aient accès et dans laquelle tous puissent pénétrer par leur voix propre et sans être rebutés par une technicité exagérée. Est-ce que néanmoins vous envisagez de publier des ouvrages hautement techniques ? Et est-ce que cela a un sens de parler d'ouvrages hautement techniques en matière de psychanalyse ?
Ça a sûrement un sens. Je ne pense pas y publier des ouvrages qui concerneraient directement la technique psychanalytique, c'est-à-dire qui porteraient directement sur le traitement, sur la cure. Mais des ouvrages théoriques fondamentaux, y aurait tout à fait leur place. Si vous voulez, pour préciser un petit peu son originalité, il s'est passé quelque chose qui pourrait être tenu pour un hasard. Les éditions Gallimard publient une collection qui est maintenant assez prestigieuse, qui est la Bibliothèque des sciences humaines. Et souvent, on m'a posé la question, mais pourquoi ne publiez-vous pas vos livres dans cette bibliothèque ? Je crois qu'il y a là plus qu'un hasard d'édition. Que la psychanalyse est dans une place très particulière par rapport aux sciences humaines, qu'elle n'est pas dans une place de carrefour, comme on le dit souvent, mais qu'elle a plutôt pour fonction de questionner les sciences humaines et pas seulement les sciences humaines. De sorte que ce statut, cette position un peu marginale de ma collection paraît correspondre à la position qui reste très difficile à définir dans l'ensemble de la classification des sciences contemporaines, la position de la psychanalyse.
Est-ce que dans une collection consacrée à la psychanalyse et de toute manière dans toute la littérature psychanalytique, est-ce que tout est dit dans l'écrit ou est-ce qu'une partie est réservée à l'enseignement oral ou tout au moins est-ce qu'une partie est réservée aux psychanalystes? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'une partie de la littérature psychanalytique est à l'usage seul du psychanalyste?
Les psychanalystes répondraient peut-être plutôt à l'inverse. Et il y a sûrement, de façon plus sensible, me semble-t-il aujourd'hui, une tendance à croire que l'essentiel de la psychanalyse ne passe pas par les livres. Que écrire sur la psychanalyse, et même écrire de la psychanalyse, c'est déjà parler de l'inconscient, et ça n'est pas le laisser parler, ça n'est pas la meilleure façon d'en transmettre le langage à un autre. Je vois que Rosolato n'est pas d'accord.
Dire que je ne suis pas d'accord, ce serait pousser les choses un peu loin. Il y a certainement quelque chose de spécifique à la psychanalyse, c'est que l'expérience de l'inconscient se fait principalement par la psychanalyse, par la cure analytique elle-même.
C'est bien ce que j'entendais et c'est pour ça que je posais ma question.
Oui. Il n'en demeure pas moins que les écrits techniques, les écrits théoriques, psychanalytiques, sont très importants. Freud a écrit, Freud a exposé ce qu'il a découvert dans des livres. Et je pense qu'il faudrait maintenir un équilibre entre cette expérience qui doit vivifier les écrits et les écrits qui doivent permettre de mieux comprendre l'expérience. Je pense que c'est une démarche scientifique que toutes les sciences expérimentent et théorisent en même temps, n'est-ce pas?
Oui, mais enfin, je ne dirais tout de même pas que s'il s'agit de physique, de mathématiques, enfin, s'il s'agit de sciences exactes, de l'extérieur, je n'ai pas envie de poser la question à un mathématicien ou à un physicien. Je comprendrais qu'il puisse me répondre, écoutez, je ne publie pas sur ce qui n'est pas encore abouti dans ma démarche, mais il me dira, lorsqu'une chose est aboutie dans ma démarche, je publie. Mais au psychanalyste, j'ai vraiment envie de poser la question, est-ce que l'essentiel, vous le gardez? Est-ce que l'essentiel est le fond commun des psychanalystes, et est-ce que l'essentiel n'est pas ce que l'on transmet hors l'écrit?
Quelque chose me gêne dans votre question. Je crois qu'on aurait tendance à faire de la psychanalyse une science ésotérique. Je ne crois pas que ce soit cela.
Je n'ai pas voulu dire cela.
Il n'y a pas un secret. On essaie de faire passer le maximum dans les écrits. Mais ces écrits n'ont pas de sens, bien sûr, sans la cure analytique. Ça n'est pas possible. Je dirais même que autre chose joue encore. Je pense que la relation analytique est basée sur le transfert. Par conséquent, lorsque vous dites une transmission de quelque chose, c'est l'établissement d'une relation particulière du patient à l'égard du psychanalyste. Et c'est cette relation qui permet justement cette transmission.
Autrement dit, je pourrais admettre que moi, lecteur, je lise toute la collection L'Inconscient, tout ce qui paraît ailleurs sur la psychanalyse, que j'en perçoive avec netteté les enchaînements logiques et que néanmoins je sois parfaitement hors de la psychanalyse.
Certainement, oui.
Jean Laplanche.
Il me semble que le problème que vous posez, finalement, ne fait que traduire une espèce d'illusion nécessaire. L'illusion qu'il y a une espèce de quant à soi des psychanalystes, une espèce de domaine réservé, ésotérique, par rapport auquel les écrits seraient simplement destinés à une sorte de diffusion ou de vulgarisation. Cette idée d'un quant à soi des psychanalystes est une illusion nécessaire qui ne fait que refléter le fait que l'inconscient est toujours autre part, que l'inconscient n'est jamais là, bien sûr, où il s'énonce. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous, en tant que personnages psychanalystes, nous gardions quelque chose explicitement par-devers nous. C'est plutôt une condition structurale même de la diffusion du savoir psychanalytique et non pas quelque chose que volontairement nous garderions par-devers nous.
Mais j'entends bien, mais il est très difficile d'arriver à rendre sensible au lecteur, à celui qui voudrait savoir, que, par exemple, je peux demander à tel chirurgien, supposons que nous soyons à la télévision. Alors, il y a bien des exemples, je peux lui demander de filmer une opération. Certains peuvent refuser, mais je dirais que on me laisserait faire, ou on me laissera faire. Je peux demander à un chimiste, à un physicien, de reconstituer une expérience. Si elle est sensibilisable par l'image, alors on acceptera. Mais si je demande à un psychanalyste de faire de la psychanalyse ou d'une psychanalyse particulière un spectacle et de me laisser filmer cette psychanalyse, de me laisser la projeter, de me laisser la diffuser, de me laisser l'émettre, il me refusera. Et il est difficile de faire entendre cela.
Oui, il vous le refusera pour des raisons déontologiques, mais à supposer qu'un psychanalyste un peu moins scrupuleux l'accepte, c'est vous qui seriez complètement frustré parce que vous ne trouveriez rien de ce que finalement vous attendez.
Je n'attends rien, je voudrais savoir s'il y a quelque chose en plus. Je pose mes questions tout à fait à froid et non par curiosité passionnelle.
Qu'aimeriez-vous trouver exactement dans une expérience de ce genre? Parce que...
Moi, je suis extérieur à la psychanalyse.
Oui.
À différentes reprises, des psychanalystes sont venus au micro et j'ai eu l'occasion dans la vie de prendre des contacts avec les psychanalystes. Il y a dans l'attitude des psychanalystes une réserve qui est différente de la réserve du physicien ou du mathématicien. La réserve du mathématicien porte, à propos de radio, n'est-ce pas, je dis, n'est-ce pas, porte sur deux points. Le premier étant, comment vous parlerai-je d'un travail qui n'est pas achevé? Et le second, c'est « Laissez-moi attendre, je tiens à une formulation parfaite du travail que je viens d'achever. » Mais il n'en est pas d'autre. Par contre, j'ai toujours senti, ou cru sentir, chez le psychanalyste, une réserve d'une nature différente. Donc je m'interroge sur la nature de cette réserve ou sur la raison qui me fait croire qu'une réserve existe.
Je crois qu'on pourrait reprendre les arguments que vous avez employés tout à l'heure pour d'autres savants. Bien sûr, on peut ne pas faire état de quelque chose parce que le travail est encore à faire. À mon sens, c'est un argument qui n'est pas tout à fait valable. Bien sûr, il y est à faire, par conséquent, on ne peut pas en parler. Il y a une autre illusion encore. C'est que si vous filmez une opération chirurgicale, il n'est pas certain que ce que vous voyez, ce soit la même chose que ce que voit le chirurgien. Et même le chirurgien qui pratique, enfin, avec son sens tactile, l'intervention.
Oui, vous avez raison, mais c'est mon ignorance qui est en cause et il ne me cache pas.
Voilà pourquoi je vais vous parler du troisième argument, c'est-à-dire, il y a une réserve nécessaire parce que, en psychanalyse, un individu est amené à exposer les choses les plus intimes, que son analyse n'est pas une aventure à laquelle il peut se prêter, il s'y engage entièrement, et que s'il s'engage dans cette aventure, il ne peut pas avoir une réserve, il doit y aller à fond. Par conséquent, vous, observateur, tierce personne, vous ne pouvez que perturber son aventure, son expérience.
J'entends la force de vos arguments, mais à mes yeux, je ne vois que la force d'un argument, et ça n'est pas suffisant, la force d'un argument.
Alors j'aurais dû
vous me comprenez bien,
présenter avec faiblesse.
Non, je crois que si je regarde M. Laplanche et M. Pontalis, je pense qu'ils me comprennent.
Oui, je ne suis pas du tout certain que Rosolato, en effet, donne tout à fait le fond de la réponse. Et je pense qu'il est effectivement très difficile de le donner. J'essayais tout à l'heure d'indiquer qu'il y avait là une sorte de nécessité structurale. C'est une nécessité structurale qui fait que le psychanalyste ne puisse jamais être tout à fait là où on le questionne. S'il veut respecter quelque chose de l'inconscient et de son hétérogénéité finalement radicale par rapport à toute expression verbalisée, il est forcé lui-même aussi dans son attitude de se trouver toujours décentré par rapport à la question scientifique qu'on lui pose.
Et par rapport à ce que lui dit le psychanalysé, est-ce qu'il a une attitude semblable ?
Certainement également. Il ne peut qu'être décentré pour essayer d'y comprendre quelque chose et pour essayer de répondre pertinemment de temps en temps. S'il est là où on le questionne, certainement il ne répondra jamais justement.
Et est-ce qu'il faut qu'il reste dans cette position décentrée ou non ?
Disons que rester dans une position décentrée, ça serait à nouveau se trouver dans une position fixe. Il doit sans cesse se décentrer.
Alors comment le contact peut-il s'établir ? Est-ce qu'il relève, est-ce qu'il est de la méthode psychanalytique de cerner sans atteindre ou non ? Ou est-ce que ma question est mal posée ?
Non, je crois qu'elle n'est pas mal posée. Effectivement, c'est peut-être une illusion de croire que l'analyste serait en quelque sorte le messager de l'inconscient, celui qui aurait lui seul accès, détiendrait les clés et qu'il interpréterait juste en tombant en bon endroit, en atteignant, comme vous dites, exactement le point sensible.
Parce que je pense, par exemple, au problème de l'écrivain, qui est de dire ce que l'on ne peut pas dire, et qui doit toujours cerner, et qui ne peut pas dire la chose ou qui est perdue. On n'écrit pas « j'ai faim ».
C'est un peu cela, mais c'est en même temps différent. Parce que l'énoncé ou la parole du psychanalyste, systématiquement, agit par ricochet. C'est pas seulement une volonté de cerner, une difficulté de cerner quelque chose, mais elle ne peut avoir un impact que par ricochet, que par boomerang, que par une espèce de trajet en zigzag, chaque fois différent, et chaque fois décevant, et décevant aussi pour l'analyste qui ne sait pas toujours exactement quel boomerang, quel trajet en zigzag va suivre sa parole, mais enfin il tente tout au moins qu'elle suive un trajet de ce genre.
Alors, le psychanalyste pourrait-il essayer de dégager un corps de règles d'action pour lui, qu'il pourrait conduire jusqu'à la formalisation, jusqu'à une formalisation extrêmement stricte, presque jusqu'à une mathématisation. Est-ce concevable ? Ou est-ce que l'attitude de la psychanalyse est vouée à être toujours en marge des sciences exactes ?
Alors je pense qu'il y a deux choses là. Il y a une certaine formalisation possible, disons, de la structure de la psyché. Mais quant à une formalisation complète ou même importante des règles du jeu psychanalytique, je n'y crois guère.
Bon, autrement dit, selon vous, toute psychanalyse automatique est inconcevable.
Difficilement concevable, oui.
J'accentuerai le difficilement.
Surtout si vous pensez par automatique l'usage d'une machine qui sert...
Au sens où on parle de diagnostic automatique, peut-on parler de psychanalyse automatique ?
Même le diagnostic automatique en médecine, je crois que c'est discutable.
Ou au sens de la théorie des jeux, par exemple, quelque chose de ce genre.
On en parle de plus en plus sérieusement et les médecins manifestent de moins en moins de réserves. Depuis quelques années, j'ai pu voir leur évolution devant ce micro même. Diagnostic automatique est une expression qui faisait sursauter il y a 7 ou 8 ans, qui était mal reçue il y a encore 2 ou 3 ans, et dont on commence à ne plus dire du mal, depuis que les médecins pensent qu'ils resteraient maîtres néanmoins du diagnostic, mais ils n'en resteront pas maîtres.
Dans la mesure où il y a des constantes biologiques, des variations biologiques que l'on peut mettre en fiche.
Naturellement.
Car nous n'avons pas ces constantes biologiques.
Est-ce que vous les cherchez ?
Biologiques ?
Je ne vois pas comment vous pourriez échapper à la biologie, même en faisant de la psychanalyse. Et si j'ai dit une erreur grossière, je vous supplie de la relever.
Ça nous entraînerait à reposer le problème des maladies mentales en rapport avec le biologique. Bien sûr, il y a des courants psychiatriques qui essayent de trouver des causes neurologiques, humorales, mettons par exemple, aux psychoses, à la schizophrénie. Ce sont des recherches qui sont en cours, et on peut dire qu'actuellement, il n'y a pas eu de résultats probants. Mais nous sommes très loin de la démarche psychanalytique.
Alors, en nous cantonnant dans la démarche psychanalytique même, est-ce que vous vous efforcez de dégager un certain nombre de constantes ou, au contraire, serait-ce une erreur que de vouloir dégager des constantes ? Cependant, il y a une doctrine psychanalytique.
Je pense qu'on peut dégager des constantes, oui. Et ces constantes seraient dans la manière de concevoir l'inconscient lui-même. Et le rapport qu'il y a entre le langage et l'inconscient. Je pense que c'est là, les constantes, c'est là l'aspect véritablement scientifique de la psychanalyse. Propre à la psychanalyse plutôt que des constantes biologiques.
Jean Laplanche, peut-on demander quel est l'état actuel de la psychanalyse ?
Si vous me posez cette question, je suppose que vous la posez par rapport à l'année 1968 et 69. Et il me paraît évident que la psychanalyse, comme l'ensemble du mouvement intellectuel, a subi un choc considérable avec les événements de mai. Et je crois que la psychanalyse actuellement, en France en tout cas, est en train de méditer sur ces événements et sur la façon dont elle-même a été impliquée de façon tout à fait directe par un certain nombre de leaders, de meneurs, de révolutionnaires qui se réclamaient de la doctrine psychanalytique comme d'une doctrine justement révolutionnaire. Je crois que la psychanalyse actuellement est en train de méditer sur cette question, éventuellement de faire son examen de conscience, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, aussi bien pour dire que peut-être elle s'est trouvée trop impliquée qu'au contraire pour se dire que peut-être elle ne s'est pas trouvée assez impliquée. Dans quelle mesure est-elle impliquée ? Dans quelle mesure la situation est-elle capitale pour la psychanalyse ? Dans quelle mesure la situation sociale retentit-elle sur la situation psychanalytique ? Qu'est-ce que ça veut dire que la situation psychanalytique ? Y a-t-il une situation psychanalytique qui puisse se dire indépendante de la situation sociale ? Personnellement, je le pense, mais c'est très difficile de le montrer.
Vous est-il possible de rendre sensible la façon dont cette espèce de crise a été perçue par les psychanalystes ? Comment elle leur est apparue ? Comment elle s'est manifestée ?
Qu'elle a été perçue par beaucoup comme quelque chose qui les bouleversait, qui les forçait à prendre un certain nombre de positions qu'il se serait souvent bien passé de prendre, qu'il les forçait éventuellement de prendre la parole, par exemple, alors que d'habitude il ne le faisait pas, et de prendre position sur des problèmes de réalité, alors que justement toute la situation psychanalytique consiste à une mise entre parenthèses rigoureuse des problèmes de réalité. Et à mon avis, l'examen de conscience actuel consiste à rétablir, et ça me semble indispensable, à rétablir cette possibilité d'une mise entre parenthèses des facteurs de réalité comme la seule possibilité d'une action psychanalytique.
Est-ce l'opinion commune ?
Je ne sais pas si
Jean Laplanche ne fait pas là trop crédit à la possibilité d'un examen de conscience des psychanalystes. Je ne sais pas s'ils ont été tous aussi bouleversés qu'ils le croient. Certains ont eu une attitude, disons, classique, et, auquel les événements ont simplement donné un tour, disons, plus défensif. C'est-à-dire, disons, ça ne nous concerne pas plus que n'importe quel événement social de grande portée. Mais ce que ça a mis en lumière, ça c'est incontestable, c'est l'aspect défensif de cette réaction. C'est-à-dire, nous, psychanalystes, nous ne sommes pas des gens de forum, ce sont des choses qu'on a dit, on a fait reproche même à certains d'avoir justement trop pris la parole, de s'être trop montré, d'être sorti de leur neutralité. Mais voilà un mot, par exemple, la neutralité, qui théoriquement n'a qu'un sens technique. L'analyste est neutre, il n'offre pas une image constituée d'avance à son patient, qui a pris tout à coup un sens politique et social. Est-ce que la neutralité nécessaire dans la cure doit avoir un prolongement au plan social? Est-ce que ça veut dire que le psychanalyste ne doit pratiquement jamais s'impliquer dans aucune espèce d'action?
Un des éléments essentiels de la contestation, je prends au sens général, et le refus de toute neutralité en quelque domaine que ce soit. Tous les jeunes contestataires que je connais refusent d'introduire le mot neutralité dans un domaine quelconque.
Bien sûr, mais c'est justement là, peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait perçu, et qu'ils n'ont même certainement pas du tout perçu, ce qui était le propre de la psychanalyse et de la découverte psychanalytique. Et je crois qu'ils ont utilisé, à la suite de bien d'autres déjà, qu'on pense à Reich et évidemment on pense surtout à Marcuse, ils ont utilisé une certaine optique de la psychanalyse qui est la partie de la psychanalyse la plus contestable et en tout cas la plus abstraite, la plus éloignée de la découverte proprement psychanalytique de l'inconscient. En d'autres termes, ce que la revendication psychanalytique sur le forum met en avant, c'est finalement quelque chose qui pouvait très bien se passer de la découverte de Freud et qui pouvait très bien se formuler bien avant Freud, disons la libération de l'instinct par rapport à la raison ou des formulations de ce genre. Ce sont des formulations que Freud lui-même a reprises, mais pour y insérer quelque chose de fondamentalement nouveau, qui était la découverte de l'inconscient, qui est tout autre chose que l'instinct en général.
Guy Rosolato.
Je reprendrai très volontiers la formulation de Laplanche à propos de ce qui me paraît être en effet très important dans la démarche psychanalytique, c'est la mise entre parenthèses de la réalité. Il n'y a pas de démarche psychanalytique sans justement cette possibilité de renverser ce qui apparaît brutalement comme une réalité en rapport avec la vie fantasmatique de l'individu. Cependant, la question que le psychanalyste a à se poser, c'est de savoir comment, de l'extérieur, dans un courant politique, on peut utiliser des concepts psychanalytiques. Comment ça peut être utilisé à partir d'un malentendu? Et nous avons l'expérience assez ancienne maintenant des rapports entre le surréalisme et la psychanalyse. Rapports qui ont été extraordinairement fructueux pour le surréalisme. Mais partant d'un malentendu. À telle enseigne que je me demande...
Et pour le psychanalyste?
Et pour le psychanalyste, bien sûr, d'une manière très fructueuse, parce que le surréalisme, c'est la poésie. Et que le psychanalyste peut fort bien avoir recours à la poésie, je dirais même que...
Qu'il ne peut pas faire autrement.
Bien sûr. Donc, savoir qu'il y a un malentendu possible, mais que ce malentendu, et c'est là la question que je me pose, est peut-être indispensable. Que c'est une sorte de médium, n'est-ce pas? Alors, ceci vu, mettons, de l'extérieur par rapport à la psychanalyse, mais de l'intérieur aussi, nous avons à comprendre aussi ce qui se passe. Et là, je crois que ce dont nous devons nous garder le plus, c'est des interprétations trop faciles, trop rapides. Dire par exemple que toute révolte, c'est une révolte contre le père, sans préciser exactement ce que nous entendons par père. Ou à l'inverse, utiliser la révolte dans un autre sens, n'est-ce pas ? Donc, nous avons là matière à réflexion, et je pense que ce qui s'est passé au mois de mai va certainement infléchir non seulement notre réflexion, mais peut-être même certains aspects théoriques de la psychanalyse.
Est-ce que vous pourriez préciser la démarche ?
Je crois que ce serait...
En vous référant peut-être plus nettement aux événements de mai que vous ne le faites. Est-ce cette référence qui vous gêne ?
Non, ce serait pour moi une référence tout à fait personnelle. Je m'intéresse au problème du père. Je pense que, en effet, comment poser la question des rapports entre révolte et père ?
Est-ce qu'il est possible, Jean-Bertrand Pontalis, de se rattacher plus que Guy Rosolato vient de le faire aux événements de mai pour rendre plus nette cette crise dont vous parlez ? Il me semble que, là encore, je vais accuser la réserve du psychanalyste. Mais il me semble que vous pourriez vous avancer davantage.
Moi, j'étais sensible peut-être à un autre point. Je crois que là, le psychanalyste qui vit dans cette réserve, c'est vrai, a été pour la première fois confronté à une image publique qu'il donnait de lui-même et que sa discipline pouvait prendre, image publique dans laquelle il ne se reconnaissait pas tout entier, mais qu'il ne pouvait pas non plus rejeter. Nous vivons peut-être un peu sur une illusion, ou en tout cas sur une nostalgie, de la psychanalyse, je dirais, comme presque comme minorité opprimée. Ce n'est pas tout à fait une illusion, parce que ça a été vrai très longtemps, et en particulier en France. Nous avons repris un peu à notre compte tout ce qui a été l'histoire, la personnelle de Freud, qui a été effectivement, comme c'est bien connu maintenant, en but à toute une série d'oppositions et qui a toujours eu à lutter, effectivement, enfin même dans sa vie, pensons aux difficultés qu'il a eues à être professeur, qui a toujours lutté contre ce qu'il dénonçait lui, au-delà de sa personne, comme des résistances à la psychanalyse. Donc nous vivons un petit peu sur ce passé. Et en France, nous avons connu pendant très longtemps, avant la vogue actuelle, une série d'étapes aussi d'opposition, que ce soit dans le milieu psychiatrique, qui en France avait une forte tradition et qui a refusé beaucoup plus que dans d'autres pays l'apport psychanalytique, que ce soit dans le mouvement philosophique, dont on peut dire que même les plus brillants représentants se sont vraiment définis par refus de la psychanalyse. Toute une partie de l'œuvre de Sartre est une dénégation intentionnelle des notions majeures de la psychanalyse, comme l'inconscient, auquel il a substitué celle de mauvaise foi. Il a inventé la psychanalyse existentielle pour faire pièce à la psychanalyse. Et le seul accueil favorable, comme le rappelait Rosolato, a été celui du surréalisme, mais il a été celui d'un double malentendu. Vous vous rappelez peut-être la lettre d'André Breton faisant visite à Freud à Vienne et croyant, je caricature un peu, trouver là un prophète révolutionnaire et trouvant un vieux monsieur bien calme, d'apparence petite bourgeoise, et qui tenait, il ne cachait pas, les surréalistes pour des fous. Ce qui est assez curieux. Donc double malentendu. Et puis, là, nous nous sommes aperçus que non seulement le psychanalyste n'était plus reconnu comme cet opprimé, comme ce scandaleux, comme ce faiseur de troubles, mais était, on peut dire, mis en accusation par certains comme, finalement, étant lui aussi du côté de la répression, ou en tout cas, ne prenant pas nettement position par rapport à l'ensemble des institutions qualifiées de répressives. Je crois que là, c'est un fait nouveau, qui est certainement aussi un malentendu, mais qui a donné à certains une certaine mauvaise conscience, non pas de la pratique analytique, mais de l'image sociale du psychanalyste.
Jean Laplanche, vous ne
paraissez... Il y avait une double attitude des contestataires par rapport à la psychanalyse. Certainement celle que vient d'indiquer Pontalis par rapport à l'image sociale ou par rapport au statut social du psychanalyste, qui en effet de minorité opprimée aurait tendance à passer du côté de l'oppression ou de la répression, à devenir un instrument de répression dans un système universel de répression, mais aussi la revendication de la prise de pouvoir, disons, par l'imagination, beaucoup plus d'ailleurs que par l'inconscient, prise de pouvoir par l'imagination qui a été souvent mise sous la bannière de Freud. Et là, je pense tout de même qu'avec un certain recul, et une fois passés les moments d'enthousiasme ou les moments où la réflexion semble difficile, il me paraît maintenant assez net qu'il n'est pas aussi simple que cela de mettre l'imagination au pouvoir. Et d'autre part, qu'est-ce que c'est que l'imagination ? Pour nous psychanalystes, ce n'est rien moins que quelque chose de libérateur. C'est une imagination qui est au moins autant serve que libératrice, qui est asservie à des structures tout à fait étroites, qui sont celles des fantasmes, de certaines formes fantasmatiques, vraiment très peu souples et très peu maniables. Finalement, mettre l'imagination au pouvoir, si c'est pour mettre certains fantasmes rigides au pouvoir, on peut se demander en quoi c'est tellement libérateur.
Et je crois qu'on trouverait... Il doit être libérateur d'écrire. Mettons l'imagination au pouvoir. Mais tout est peut-être fini à ce moment-là, avec l'image.
Oui, si vous voulez. Mais quand il s'agit vraiment des structures de l'imagination, des structures de l'imaginaire, alors là, en effet, c'est assez peu libérateur. J'étais aussi frappé en lisant Marcuse de voir combien il se référait là aussi à une vieille, finalement une vieille théorie de l'imagination, la théorie schillerienne, beaucoup plus qu'à la théorie freudienne de la fantaisie, du fantasme.
J'ai longuement bavardé avec nombre de ceux que l'on appelle les contestataires, et j'ai constaté que plusieurs prenaient nettement parti, et on m'a dit, à plusieurs reprises, des jours différents, un psychanalyste, c'est quand même quelqu'un qui récupère. Et c'était là le crime. Alors, est-ce que le psychanalyste est vraiment quelqu'un qui récupère pour le compte de la société, naturellement ? C'était une attaque. Ce n'était pas une constatation. En tout cas, ça ne voulait pas l'être.
Oui, qui ne récupère pas.
Je n'attaque pas.
Non, mais je veux dire, qui ne récupère pas ? Les contestataires eux-mêmes récupèrent. Et je pense que si quelqu'un peut tenter de se mettre dans une position où il ne récupère pas, c'est quand même le psychanalyste. C'est peut-être la seule position où l'on puisse, tout au moins pendant un certain laps de temps, ou pendant certains fragments de temps, même au cours d'une cure, disons peut-être pas pendant toute une cure, mais c'est peut-être encore là qu'on a le plus de chance, pendant un certain temps, de ne pas récupérer. De ne pas récupérer au profit d'une réalité.
Ni dans l'intention, ni dans le fait.
Certainement pas dans l'intention, mais nous ne parlons pas d'intention, nous parlons des faits.
Je précise. Pas.
Mais ça nécessiterait certainement alors là une discussion et un réexamen critique de ce qui a pu être dit par les psychanalystes et par Freud tout le premier quant à l'impact de la réalité sur la structure psychique. À mon avis, cet impact est beaucoup moins important qu'il ne l'a dit, et le conflit ne se situe pas tellement entre la réalité et l'inconscient, comme plus d'une fois Freud l'a mis en avant.
En effet, il ne faut pas négliger l'intention aussi de la psychanalyse. Certainement, la récupération est la chose que nous évitons, nous tentons d'éviter le plus. Là où la question serait intéressante, c'est, malgré l'intention, quel déchet y a-t-il ? En ce sens, comment une récupération peut se faire quand même, mettons à l'insu du psychanalyste, dans la mesure où il participe à une société ?
Oui, on peut poser aussi la question à l'inverse. Comment fait-il pour ne pas récupérer, pour avoir conscience claire qu'il ne récupère pas, pour être certain qu'il ne récupère pas? Quelle méthode met-il en œuvre pour ne pas récupérer?
Je pense que la méthode, c'est tout simplement la possibilité de passer par le détour de l'inconscient. Par ce détour de l'inconscient, le sujet est amené à dire même le contraire de ce qu'il peut penser être sa ligne de conduite, par exemple. De sorte que un rêve peut révéler quelque chose qui est à l'opposé, complètement à l'opposé de son projet. Ce qui amènerait à avoir un aspect dialectique de la psychanalyse, justement parce qu'il y a un retournement possible par le truchement de l'inconscient. Le rôle du psychanalyste, c'est justement de laisser ces possibilités contradictoires apparaître. Bien sûr, je ne dirais pas que c'est quelque chose que tout le monde sait, que le psychanalyste n'est pas un conseilleur non plus. De sorte que on peut dire que la récupération est certainement aux antipodes du projet psychanalytique.
On peut même dire qu'elle est aux antipodes de sa personne. Je veux dire que le psychanalyste, dans la mesure où il est quotidiennement confronté à ces détours de l'inconscient, est lui-même, je ne dis pas incapable de récupérer, mais le plus mal placé pour récupérer, pour se récupérer.
En fait, un individu dont la cure est achevée, la société peut-elle le considérer comme récupéré?
Bien sûr.
D'où l'attaque, peut-être.
Non, j'ai compris l'attaque dont vous faisiez l'écho de la façon suivante. Au fond, le psychanalyste lui-même, non seulement...
Lui aussi remet dans les rails, c'est ça que ça veut dire.
Lui aussi remet dans les rails et lui aussi se remet dans les rails.
Oh, c'était surtout lui aussi remet les autres dans les rails. Avec ce sous-entendu, donc, il y est déjà, lui-même. Mais est-ce que l'on peut trouver, dans la situation psychanalytique générale actuelle, d'autres événements qui aient une influence aussi grande, un impact aussi net que les événements de mai? Je suppose que là, on nous trouvait en présence d'un fait, mais le travail théorique du psychanalyste ne s'est pas interrompu du fait des événements de mai. Je veux bien admettre qu'il ait intégré ces événements dans sa pensée, dans sa réflexion, mais est-il possible de faire abstraction de ces événements au cours des deux dernières années, par exemple, et d'isoler des évolutions théoriques?
Sur les faits encore, un mot si vous voulez bien, ces événements, comme on les appelle peut-être trop pudiquement, ont eu des effets même alors sur la situation de la psychanalyse en France. Car il y avait au fond une attitude assez ambiguë de la part des contestataires, à la fois disant les psychanalystes ce sont à la limite des répressifs, ce sont des gens qui récupèrent pour les autres, et en même temps il y avait une demande tout à fait nouvelle, au moins dans son caractère massif, adressée aux psychanalystes. Et cette demande a eu des effets, même pratiques, pour donner des exemples, c'est seulement depuis quelques mois, donc depuis octobre, que la psychanalyse est enseignée à l'université, que se créent des départements de psychanalyse, alors que jusque-là, bien sûr, il y avait des psychanalystes enseignants, mais c'était sous couvert de la rubrique psychologie. On peut aussi voir dans la prolifération, qui est très loin d'être en décroissance, des publications psychanalytiques, un effet de l'actualité.
Alors, ces événements...
On attend de plus en plus du psychanalyste, peut-être trop.
Je me posais la question de savoir si les événements de mai écartés, on peut, dans le passé récent de la psychanalyse, déterminer des évolutions très significatives, des apparitions théoriques ou des retours à certaines sources, enfin, des tendances.
En France, c'est difficile à définir. Il y a certainement depuis quelques années un mouvement, disons, original, dont d'ailleurs ceux qui y participent ne sont peut-être pas les mieux placés pour le définir, mais on ne peut pas parler d'une école française de psychanalyse, mais il n'y a pas de doute que à l'étranger, peut-être vous interrogeriez là un psychanalyste ou un lecteur étranger, il saurait mieux vous répondre, il sentirait qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans le mouvement français qui n'est pas représenté ailleurs. Sans qu'on puisse parler, je crois, d'une école, avec ce que ça implique de très défini, ce courant de pensée, on se réclame certainement d'un retour affreux, c'est devenu presque un mot de passe. C'est un trait original.
Est-ce que ce n'est pas une gêne pour la psychanalyse dans la mesure où elle voudrait devenir un mouvement purement scientifique? C'est une critique que j'ai déjà entendue formuler et j'avoue que quand on n'est pas psychanalyste, il est difficile de s'en défendre tout à fait. On retourne à Freud, dans une certaine mesure, c'est un retour à Aristote a dit. On retourne à la parole d'un homme.
Non, je crois que...
Alors, comment pourrait-on expliquer ce retour de façon à éviter cette critique qui est grossière, je le comprends bien, mais frappante?
Je crois que le retour à Freud n'est pas une sorte de retour vers un passé. C'est une manière pour les jeunes générations de retrouver Freud qui avait été oublié par la génération tout à fait précédente. Et il est possible aussi que une certaine psychanalyse ait oublié de lire Freud. Voilà pourquoi, quand on dit retour, c'est simplement prolongation, continuation de cette lecture et enrichissement des concepts freudiens, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas apporter quelque chose. Je crois qu'on peut dire qu'il y a un style français de la psychanalyse, enfin, de les publications françaises ont peut-être quelque chose de particulier qui se reflète dans le vocabulaire de la psychanalyse de la Planche et Pontalis, par exemple. C'est justement d'être très attentif à cette lecture de Freud et de préciser exactement ses concepts, ce qui ne se fait peut-être pas toujours. Les traductions dont il faut qu'on parle quand même, il y a un retard énorme en France des traductions de Freud. Il y a eu des traductions approximatives que l'on a tolérées dans les années 20 ou dans les années 30. C'est quelque chose qu'il faut corriger. Je lisais tout à l'heure un livre qui vient de paraître, une traduction de Roheim, où le traducteur, visiblement, ne connaissait pas des choses que tout psychanalyste connaît. Il s'agissait du président Schreber, et la phrase disait « Schreber parlant de son malade », alors que tout le monde sait que Schreber parlait de lui-même.
Je dois dire que là aussi, je serais peut-être un tout petit peu moins, disons, positiviste que... mon ami Rosolato, en ce qui concerne le retour à Freud. Il ne s'agit pas simplement d'un retour scientifique, au sens où certaines choses auraient été mal comprises, disons, et qu'il s'agirait simplement d'aller dans un certain sens déjà tracé par quelqu'un. Le retour à Freud ne peut être conçu, à mon sens, que comme un retour interprétatif à Freud lui-même. C'est-à-dire que comme une interprétation de Freud lui-même. Et tu parlais tout à l'heure d'oubli. Ce n'est pas seulement un oubli du mouvement psychanalytique.
C'est une autre interprétation.
C'est une interprétation de dire qu'il y a oubli. Oui. Et nous savons, nous, psychanalystes, quand nous interprétons un oubli, ce que cela veut dire. Et il n'y a pas seulement un oubli de Freud par les psychanalystes, oubli constant, on peut dire que même il y a eu constamment un oubli de Freud par Freud, de sorte que notre retour à Freud consiste sans cesse à réinterpréter les oublis de Freud, les refoulements de Freud sur sa propre découverte.
L'argument que vous opposiez touchant le principe d'autorité était beaucoup plus valable il y a quelques années, où on se servait, alors là, voire de citation simplement de Freud, disant « Freud a dit cela », citation qui pouvait être contradictoire, car la pensée de Freud est loin d'être homogène à première lecture. Je crois en effet que ce retour à Freud, ce n'est pas du tout un retour au texte sacré, au texte de loi, c'est une lecture. qui va quelquefois, sinon plus loin que Freud, qui vise à interpréter effectivement son texte et à en mettre en évidence un certain nombre de contradictions et aussi à trouver chez lui ce qui a pu donner naissance à ce que nous considérons comme des dégradations ou des aplatissements.
Quand on parle de sciences exactes, de physique, ou même lorsqu'on parle de biologie, dans un grand nombre de disciplines, on peut mesurer, sinon le progrès, au moins l'avance. Je dis sinon le progrès parce que le mot progrès ne plaît pas à tous et que beaucoup d'hommes de science veulent l'écarter à tout prix de toute démarche. Enfin, l'acquisition de connaissances nouvelles est une chose que l'on peut mesurer. Est-ce que, en psychanalyse, l'acquisition de connaissances nouvelles est quelque chose que l'on peut, sinon mesurer, au moins estimer, situer, apprécier?
C'est difficile à dire, parce que si nous essayons de définir une découverte, mettons, mutante, bien sûr, il y a des noms qui nous viennent à l'esprit. Mélanie Klein, par exemple, a donné un autre tour à la psychanalyse. Mais il y a aussi des critiques à faire à la théorie de Mélanie Klein. De sorte que, pour ma part, si j'avais à apprécier, mettons le mot de progrès avec ce que ça peut comporter d'aléa, si j'avais à apprécier le progrès, je le ferais par petites touches. Sur telle question, qu'est-ce que je vois, par exemple, qui a été apporté dans les 20 dernières années, que ce soit sur la névrose obsessionnelle, ou les perversions sexuelles, ou le problème du complexe d'Oedipe, etc. C'est ainsi que je crois qu'on peut évaluer, s'il y a à évaluer, le progrès de la psychanalyse.
Pourquoi cette restriction, s'il y a à évaluer le progrès de la psychanalyse?
On pourrait répondre de façon qui vous paraîtrait moins désenchantée à votre question. On pourrait mettre en avant un certain nombre d'acquisitions, je dirais en extension. Par exemple, on peut dire que la psychanalyse a gagné du terrain, à la fois sur le plan théorique et sur le plan thérapeutique, dans le domaine de la psychanalyse des enfants, qui est une conquête relativement récente, qu'on y voit peut-être un peu plus clair dans le champ des psychoses, mais ce genre de réponse ne nous satisferait pas beaucoup. En ce sens, on peut très bien dire que la psychanalyse n'est pas conforme au modèle que vous donniez d'une science avec un savoir cumulatif qui s'accroît à travers le temps, à chaque génération, et même très vite dans certaines disciplines.
Oui, même avec des explosions.
Avec des explosions. Là, en ce sens, la psychanalyse serait certainement plus proche de la démarche philosophique où la notion de progrès est bien plus difficile à soutenir.
Mais alors, est-ce que cet état de la psychanalyse satisfait le psychanalyste? Est-ce qu'il est de l'essence de la psychanalyste d'écarter un petit peu le genre de question que je viens de poser? Ou au contraire, est-ce que l'espoir des psychanalystes est de déboucher sur un état de choses tel que on puisse dire tel progrès se manifeste? Est-ce que vous souhaitez participer à cette explosion des connaissances? Est-ce qu'on peut concevoir qu'elle y participe un jour? Ou est-ce qu'il est de sa nature de n'y pas participer?
Moi, je serais tenté de dire qu'il est de sa nature de ne pas y participer, mais je ne suis pas sûr que Jean Laplanche voit les choses de la même façon.
Non, nous avons tous, bien sûr, l'espoir d'un... Je ne dirais pas d'un savoir cumulatif, n'est-ce pas? C'est certainement pas de ça qu'il s'agit. Mais nous avons tous, à nos heures, l'espoir d'une formulation, sinon même d'une formalisation nouvelle qui nous permette, en effet, d'avoir l'impression de tenir quelque chose à travers lequel nous circulions d'une façon plus aisée. Mais en même temps, il y a le mouvement inverse, il y a le mouvement d'enlisement perpétuel. Si bien qu'à côté de cette sorte d'aspiration au progrès scientifique, il y a déjà la lutte quotidienne contre l'enlisement des concepts psychanalytiques, contre leur refoulement, comme je le disais tout à l'heure, contre leur oubli.
Il faut rendre vie à chaque instant.
Oui, il faut à chaque instant gratter, parce qu'à chaque instant, ça se recouvre, ça se rouille, ça se dégrade, ça s'aplatit,
en fin de
ça s'abrase.
En fin de compte, est-ce du langage que vous grattez ainsi ?
C'est pas seulement du langage, c'est au-delà du langage. C'est l'inconscient qui se recouvre aussi bien de langage, bien sûr. Il se recouvre de bien d'autres choses.
La récupération et la contestation, c'est notre pain quotidien. C'est-à-dire que cette récupération, elle est au niveau même de notre discipline.
C'est-à-dire, avant de récupérer, nous sommes récupérés constamment, plutôt.
Et vous pouvez concevoir cette action de décapage en dehors de toute espèce de langage.
Ah non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je voulais dire simplement, quand vous me demandiez si c'était du langage, je voulais dire simplement que ce que nous décapons n'est pas seulement du langage. Et certainement au-delà, dans des couches qui sont plus profondes que le langage, que la verbalisation, disons.
Oui, mais nous n'avons que le langage comme manifestation,
oui,
bien sûr.
Bien sûr.
Je voudrais maintenant signaler un ouvrage publié aux éditions de Minuit dans la collection Arguments. C'est un ouvrage du linguiste Yemslev. Deux parties dans cet ouvrage, Prolégomène à une théorie du langage et Structure fondamentale du langage. Les prolégomènes à une théorie du langage ont été traduits par une équipe de linguistes et c'est Mademoiselle Anne-Marie Léonard qui est assistante à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Besançon, qui a revu la traduction. C'est elle également qui a traduit de l'anglais la seconde partie, c'est-à-dire la structure fondamentale du langage. C'est par conséquent à Anne-Marie Léonard que je demande quelle est l'importance de l'ouvrage dans l'œuvre de Yemslev et comment ce livre s'insère-t-il et à quel moment dans l'œuvre du linguiste.
C'est l'ouvrage fondamental de Louis Yemslev, c'est l'ouvrage dans lequel il essaye de définir sa théorie et dans les autres textes, ce sont plutôt les applications de cette théorie que l'on voit.
C'est la première partie, je suppose.
C'est la première partie.
C'est Prolégomène à une théorie du langage qui constitue donc cette œuvre maîtresse.
Oui, la structure fondamentale du langage, c'est la publication d'une série de conférences faite en Angleterre et qui éclaire de façon assez intéressante les prolégomènes à une théorie du langage dans la mesure où, voulant présenter sa théorie de façon extrêmement simple et donc simplifiée, il arrive à se débarrasser d'un discours extrêmement fourni qui peut masquer quelquefois le caractère de la théorie qu'il expose.
Est-ce qu'il est possible, rapidement, de définir, de tracer les grandes lignes de cette théorie de Yemslev ?
En tracer les grandes lignes, oui. La définir comme théorie, c'est plus difficile. C'est-à-dire que l'importance historique de Yemslev est assez connu, c'est le fondateur de la théorie glossématique qui a eu un certain retentissement et qui a suscité de nombreux travaux autour de lui et qui, à une époque plus récente, a plus ou moins disparu. Mais en fait, par rapport à des travaux récents, elle présente un intérêt assez remarquable. Déjà dans la définition que Yemslev non pas donne, mais plus exactement ne donne pas de ce que serait une théorie du langage.
Volontairement ?
Certainement pas. Je crois que une des ambiguïtés du texte vient de ce que Yemslev utilise langage dans des sens extrêmement variés au cours de ses textes et fait de même avec le terme théorie. C'est-à-dire que quand il parle de théorie du langage, quelquefois il parle bien effectivement de théorie du langage et d'autres fois de théorie de l'analyse. C'est-à-dire d'une procédure d'analyse applicable au langage, mais qui n'effleure pas la nature du langage encore qu'il veuille le faire. C'est certain.
Est-ce que l'on peut considérer que ces vues sur le fait linguistique sont parfaitement originales ou non ?
À première vue, non. C'est-à-dire que présentée sous sa théorie, non. Elle a un certain nombre de caractéristiques extrêmement originales. Mais on peut s'apercevoir qu'en fait, dans le détail, Yamsley parvient, je dirais, à récupérer énormément de conceptions traditionnelles, encore qu'il s'en défende énormément et qu'il se veuille en rupture avec toute la linguistique précédente, sauf Saussure. Mais, en fait, les catégories auxquelles il parvient ne semblent pas extraordinairement différentes, extraordinairement nouvelles par rapport à ce que la linguistique antérieure avait pu apporter. Ce qui me semble assez original chez Yamsley, c'est la volonté d'établir un système purement déductif qui permette un calcul des possibilités combinatoires du langage qui découle d'un certain nombre de données proposées. Un des problèmes est l'établissement de ces données. Yamsley se fonde sur un certain nombre d'indéfinissables et non pas sur une axiomatique définie. C'est une des raisons qui ont fait dire à des logiciens qui ont travaillé sur les œuvres de Yamsley que sa théorie qu'il voulait formelle et faite sur le modèle des sciences formelles était informalisable.
Oui, je voulais justement vous demander si on se trouvait en présence d'un système logiquement cohérent et si la volonté de l'auteur d'y parvenir était nette.
La volonté de l'auteur d'y parvenir est absolument nette et déclarée. Il se réfère très souvent à des ouvrages de logiciens éminents et marque très souvent l'intérêt énorme que présentent les travaux de logique pour le linguiste. Mais si sa théorie a toutes les apparences d'une théorie formelle et formalisable, dans le détail et même dans un certain nombre des présupposés, elle ne l'est pas. J'ai dit des catégories, il y a effectivement des catégories, mais surtout, plus que de catégories, il veut établir des rapports suffisamment généraux pour qu'ils s'appliquent bien au langage et non pas à tel ou tel type de langue, mais ces relations qu'il définit ne sont pas suffisamment cohérentes pour que le logicien puisse les formaliser.
Alors je vais avancer le grand mot, celui dont on parle tant, qu'on loue, qu'on condamne, ce mot structuralisme. Vais-je dire que Yamsley est structuraliste ou non ?
Je crois qu'il l'est.
Et si on le dit, pourquoi, bien entendu ?
Oui, je crois qu'il l'est beaucoup plus qu'aucun des autres linguistes que l'on appelle structuraliste. Il l'est, par exemple, par opposition à toute la linguistique dite structurale américaine. Et c'est, si on le compare avec cette linguistique structurale, il est probablement infiniment plus fécond dans la recherche théorique. C'est-à-dire que Yamsley, d'une part, présente ce qu'il appelle les événements linguistiques, que nous appellerions peut-être maintenant les événements de langage, les événements langagiers. Il veut les voir totalement sortis d'une situation de communication. Cela à partir de la constatation que la situation théorique de communication entre deux individus au moins peut être incomplète, c'est-à-dire que puisqu'on peut faire abstraction soit du locuteur, soit de l'auditeur, pour étudier les phénomènes de langage, il faut faire abstraction des deux, et considérer l'événement langagier indépendamment de cette situation de communication, donc indépendamment de l'homme. Et d'autre part, il fait une distinction qui, sur un plan théorique, est importante et qui d'ailleurs semble en contradiction apparente avec le principe d'empirisme qu'il pose comme fondement de sa théorie, une distinction fondamentale entre l'immédiatement observable, ce que nous pourrions appeler maintenant comme appartenant à un niveau de surface, et ce qui appartiendrait à un niveau profond, c'est-à-dire ce qu'il appelle le procès au niveau de surface et le système au niveau profond. C'est-à-dire que pour Yamsley, une théorie du langage doit parvenir à définir un système. Mais en fait, ce qu'il fait, et ce qu'il amorce déjà dans les prolégomènes, c'est une analyse qui isole un certain nombre de fonctions selon une procédure formelle. Mais en fait, ne posant jamais le problème de la relation entre ces deux niveaux, ce niveau de surface et ce que nous pourrions appeler un niveau profond, il reste à ce niveau de surface tout en voulant atteindre un niveau profond. Et c'est-à-dire que finalement, Yamsley fait bien une linguistique du procès, suffisamment généralisée pour qu'elle ne soit pas la linguistique d'un procès particulier dans une langue ou même dans un type de langue particulier. Mais il n'atteint pas pour autant le système. Ce système devait être le but de la théorie du langage, il le dit explicitement, mais dans son analyse, il n'y parvient jamais, et c'est un autre type de système, c'est-à-dire qu'il fabrique, il élabore un système du procès. Mais il ne quitte jamais le terrain du procès. Quant au terme de système, il n'est pas expliqué chez Yamsley. Alors, comme le terme de structure, d'ailleurs, ne l'est pas, mais on peut voir que Yamsley utilise en fait la notion de structure dans un sens qui semble assez rigoureux, aussi proche du concept de structure en mathématiques qu'il est possible, puisqu'il définit des rapports, des dépendances entre des objets, et que les objets ne sont jamais définis autrement que en tant que terme de ces relations. Et c'est, je crois, en ce sens-là qu'il est plus réellement structuraliste que la linguistique dite structurale des analyses en constituant, comme le montre la linguistique américaine.
Je rappelle le titre de l'ouvrage, dans la collection Arguments aux éditions de Minuit, les prolégomènes à une théorie du langage suivie de la structure fondamentale du langage, traduit par Anne-Marie Léonard, assistante à la faculté des lettres et sciences humaines de Besançon. Nadine Lefébure consacre aujourd'hui sa rubrique au dialogue de Platon, La République, livre 9.
C'est de nouveau à La République de Platon que nous emprunterons aujourd'hui un dialogue, quelques pages de dialogue plutôt, ayant trait à la tyrannie, mais avec le rêve pour point de départ, énoncé la part faite au rêve dans la psychanalyse. Dans le rêve se libère en effet la partie de l'âme bestiale et sauvage, dit textuellement Platon. Mais sous l'influence d'Eros, on dirait aujourd'hui la libido, le rêve ne suffit pas toujours. Alors, c'est la porte ouverte au désordre et dérèglement complet, dit encore Platon, on le verra. Et de là, nous allons passer à la cité, de même que l'individu, sous la tyrannie d'Eros, peut arriver à maltraiter père et mère, de même il châtiera sa patrie. Voici donc, au terme de ce dialogue, une analyse de l'état tyrannique faite à partir d'Eros, façon d'envisager les choses qui peut s'apparenter à des vues très modernes de la psychologie des profondeurs sur telle ou telle masse humaine.
Parmi les plaisirs et les désirs non nécessaires, certains me semblent illégitimes. Ils sont probablement innés en chacun de nous, Mais réprimés par les lois et les désirs meilleurs, avec l'aide de la raison, ils peuvent, chez quelques-uns, être totalement extirpés ou ne rester qu'en petit nombre et affaiblis. Tandis que chez les autres, ils subsistent plus forts et plus nombreux.
Mais de quel désir parles-tu ?
De ceux qui s'éveillent pendant le sommeil, lorsque repose cette partie de l'âme qui est raisonnable, douce, et faite pour commander à l'autre, et que la partie bestiale et sauvage, gorgée de nourriture ou de vin, tressaille, et après avoir secoué le sommeil, part en quête de satisfaction à donner à ses appétits. Tu sais qu'en pareil cas, elle ose tout, comme si elle était délivrée et affranchie de toute honte et de toute prudence. Elle ne craint point d'essayer en imagination de s'unir à sa mère ou à qui que ce soit, homme, dieu ou bête, de se souiller de n'importe quel meurtre et de ne s'abstenir d'aucune sorte de nourriture. En un mot, il n'est point de folie, point d'impudence dont elle ne soit capable.
Tu dis vrai.
Mais lorsqu'un homme, sain de corps et tempérant, se livre au sommeil après avoir éveillé l'élément raisonnable de son âme et l'avoir nourri de belles pensées et de nobles spéculations en méditant sur lui-même, lorsque cet homme a pareillement adouci l'élément irascible et qu'il ne s'endort point le cœur agité de colère contre quelqu'un, lorsqu'il a donc calmé ces deux éléments de l'âme et stimulé le troisième en qui réside la sagesse, et qu'enfin il repose, alors, tu le sais, il prend contact avec la vérité mieux que jamais, et les visions de ses songes ne sont nullement déréglées.
J'en suis tout à fait persuadé.
Mais nous nous sommes trop étendus sur ce point. Ce que nous voulions constater, c'est qu'il y a en chacun de nous, même chez ceux qui paraissent tout à fait réglés, une espèce de désir terrible, sauvage, sans loi, et que cela est mis en évidence par les songes. Regarde si ce que je dis te semble vrai et si tu en conviens avec moi.
Mais j'en conviens.
Rappelle-toi maintenant l'homme démocratique tel que nous l'avons représenté. Il est formé dès l'enfance par un père parcimonieux, honorant les seuls désirs intéressés et méprisant les désirs superflus qui n'ont pour objet que l'amusement et le luxe, n'est-ce pas ?
Oui.
Mais ayant fréquenté des hommes plus raffinés et pleins de ces désirs que nous décrivions tout à l'heure, il se livre à tous les déportements, se laisse entraîner dans un dérèglement complet nommé par ceux qui l'entraînent « liberté complète ». Quand ces habiles magiciens et faiseurs de tyrans désespèrent de retenir le jeune homme par tout autre moyen, ils s'ingénient à faire naître en lui un amour qui préside aux désirs oisifs et prodigues, quelques frelons ailés et de grande taille. Ou bien crois-tu que l'amour soit autre chose chez de tels hommes ?
Non, ce n'est rien d'autre.
Lors donc que les autres désirs bourdonnant autour de ce frelon, dans une profusion d'encens, de parfums, de couronnes, de vins et de toutes les jouissances qu'on trouve en de pareilles compagnies, le nourrissent, le font croître jusqu'au dernier terme et lui implantent l'aiguillon de l'envie, alors ce chef de l'âme, escorté par la démence, est pris de transports furieux. Et s'il met la main sur des opinions et des désirs tenus pour sages et gardant encore quelques pudeurs, il les tue et les boute hors de chez lui jusqu'à ce qu'il en ait purgé son âme et l'ait empli de folie étrangère.
Tu décris là de façon parfaite l'origine de l'homme tyrannique.
Aussi bien, n'est-ce pas pour cette raison que depuis longtemps, l'amour est appelé un tyran ?
Il le semble.
J'imagine que désormais ce ne sont que fêtes, festins, courtisanes et réjouissances de toutes sortes chez celui qui a laissé le tyran Eros s'installer dans son âme et en gouverner tous les mouvements.
Nécessairement.
Or, de nombreux et terribles désirs dont les exigences seront multiples ne pousseront-ils pas chaque jour et chaque nuit à côté de cette passion ?
Si, ils pousseront nombreux.
Donc les revenus, s'il y en a, seront vite dépensés.
Comment non ?
Et après cela viendront les emprunts et les prélèvements sur le capital.
Certes.
Et quand il ne restera plus rien, n'est-il pas évitable que la foule ardente des désirs qui nichent dans l'âme de cet homme se mette à pousser des cris et que lui-même, piqué par ses désirs, et surtout par l'amour que les autres escortent comme un chef, soit pris de transports furieux et cherche quelque proie dont il puisse s'emparer, par fraude ou par violence ?
Certainement.
Ainsi, ce sera pour lui une nécessité de piller de tous côtés, ou d'endurer de grandes souffrances et de grandes peines.
Oui, une nécessité.
Et comme les nouvelles passions survenues dans son âme l'ont emporté sur les anciennes et les ont dépouillées, de même ne prétendra-t-il pas, lui qui est plus jeune, l'emporter sur son père et sa mère, les dépouiller quand il aura dissipé sa part et s'attribuer les biens paternels?
Sans contredit.
Et si les parents ne lui cèdent point, n'essaiera-t-il pas d'abord de les voler et de les tromper?
Certainement.
Mais s'il n'y réussit point, il leur arrachera leurs biens de force.
Je le crois.
Maintenant, admirable ami, si le vieux père et la vieille mère résistent et soutiennent la lutte, prendra-t-il garde et s'abstiendra-t-il de commettre quelque action tyrannique?
Je ne suis pas du tout rassurée pour les parents de cet homme.
Mais par Zeus, Adimante, pour une courtisane aimée d'hier et qui n'est pour lui qu'un caprice, s'oubliera-t-il à l'égard de cette amie ancienne et nécessaire qu'est sa mère, ou pour un jeune homme en sa fleur qu'il chérit depuis la veille et qui n'est aussi pour lui qu'un caprice, à l'égard de son père dont la jeunesse est passée mais qui est le plus nécessaire et le plus ancien de ses amis, s'oubliera-t-il, dit, à leur égard au point de les frapper et de les asservir à ses créatures s'il introduit celles-ci dans sa maison?
Oui, par Zeus.
C'est vraiment un très grand bonheur que d'avoir donné le jour à un fils tyrannique.
Oui, un très grand.
Mais quoi? Lorsqu'il aura épuisé les biens de ses pères et mères, et que les passions se seront rassemblées en essaims nombreux dans son âme, n'en viendra-t-il pas à toucher à la muraille de quelque maison ou au manteau de quelque voyageur attardé dans la nuit, puis à faire place nette dans les temples? Et en toutes ces conjonctures, les vieilles opinions tenues pour justes qu'il avait depuis l'enfance sur l'honnête et le malhonnête céderont le pas aux opinions nouvellement affranchies qui servent d'escorte à l'amour et triompheront avec lui. Auparavant, ces dernières ne se donnaient libre cours qu'en rêve pendant le sommeil, car il était alors soumis aux lois et à son père, et la démocratie régnait dans son âme. Mais maintenant, tyrannisé par l'amour, il sera sans cesse à l'état de veille, l'homme qu'il devinait quelquefois en songe. Il ne s'abstiendra d'aucun meurtre, d'aucune nourriture défendue, d'aucun forfait. Eros, qui vit en lui tyranniquement dans un désordre et un dérèglement complet parce qu'il est le seul maître, poussera le malheureux dont il occupe l'âme comme un tyran la cité à tout oser pour le nourrir, lui et la cohue des désirs qui l'entourent. Les désirs qui sont venus du dehors par les mauvaises compagnies et les désirs nés à l'intérieur qui ont rompu leurs liens et se sont affranchis. N'est-ce pas la vie que mène un tel homme?
Si.
Or, si dans un état les hommes de ce genre sont en petit nombre et que le reste du peuple soit saint, ils partent pour aller servir de satellite à quelque tyran ou se louer comme mercenaires s'il y a guerre quelque part. Mais si la paix et la tranquillité règnent partout, ils restent dans la cité et y commettent un grand nombre de petits délits.
De quels délits veux-tu parler?
Par exemple, ils volent, percent les murailles, coupent les bourses, détroussent les passants, font capture et trafiquent d'esclaves, et parfois, quand ils savent parler, ils sont sycophantes, faux témoins et prévaricateurs.
Voilà donc ce que tu appelles de petits délits tant que ces hommes sont en petit nombre.
Oui, car les petites choses ne sont petites que par comparaison avec les grandes, et tous ces méfaits, pour ce qui est de leur influence sur la misère et le malheur de la cité, n'approchent même pas, comme on dit, de la tyrannie. En effet, lorsque de tels hommes et ceux qui les suivent sont nombreux dans un état et qu'ils se rendent compte de leur nombre, ce sont eux qui, aidés par la sottise populaire, engendrent le tyran le plus grand et le plus achevé.
C'est naturel, car il sera le plus tyrannique.
Et alors, il peut arriver que la cité se soumette volontairement. Mais si elle résiste, de même qu'il maltraitait naguère son père et sa mère, il châtiera sa patrie s'il en a le pouvoir. Il y introduira de nouveaux compagnons et leur asservissant celle qui lui fut autrefois chère, sa matrie, comme disent les Crétois, et sa patrie, il la nourrira dans l'esclavage. Et c'est là qu'aboutira la passion du tyran.
Parfaitement.
Maintenant, dans la vie privée et avant d'arriver au pouvoir, ces hommes-là ne se conduisent-ils pas de la sorte? D'abord, ils vivent avec des gens qui sont pour eux des flatteurs prêts à leur obéir en tout. Ou s'ils ont besoin de quelqu'un, ils font des bassesses, osent jouer tous les rôles pour lui montrer leur attachement, quitte à ne plus le vouloir connaître quand ils seront parvenus à leur fin.
C'est très vrai.
Leur vie durant, ils ne sont donc les amis de personne, toujours despotes ou esclaves. Quant à la liberté et à l'amitié véritable, un naturel tyrannique ne les goûte jamais.
Assurément.
N'est-ce pas à bon droit que nous les appellerions des hommes sans foi?
Comment non?
Et injuste au dernier point, si ce dont nous sommes convenus plus haut, touchant la nature de la justice, est exact?
Mais certes, c'est exact.
Résumons-nous donc quant au parfait scélérat. C'est celui qui, à l'état de veille, est tel que l'homme en état de songe que nous avons décrit.
Notre émission était divisée aujourd'hui en deux parties principales. C'est tout d'abord un état présent de la psychanalyse qui nous a retenus. Au cours de cette première partie, vous avez entendu successivement messieurs Jean-Bertrand Pontalis, maître de recherche au CNRS, Guy Rosolato, membre de l'Association psychanalytique de France, Jean Laplanche, membre de l'Association psychanalytique de France. Au cours de la seconde partie, vous avez entendu mademoiselle Anne-Marie Léonard, traductrice de « Prolégomène à une théorie du langage » de Louis Yemslev aux éditions de Minuit. Nadine Lefébure a consacré sa rubrique au dialogue de Platon de la République, livre 9, les textes, est élu par Philippe Moreau et Sylvie Moreau. Assistante de réalisation, Nicole Guesveller.
C'était « Science et technique » par Georges Charbonnier, première diffusion sur France Culture le 11 avril 1969. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.